Vous écoutez RFI, il est 7h à Paris et à Nice, 5h en temps universel.
RFI Matin.
Et tout de suite, c'est le journal. Bonjour Diane Berger.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et tous.
On commence ce journal à Nice pour l'ouverture du sommet des Nations Unies sur l'océan.
Jusqu'à vendredi, les dirigeants d'une cinquantaine de pays vont débattre des mesures nécessaires pour mieux protéger nos mers menacées par la pollution et la surpêche. Pour l'instant, l'océan est le moins bien financé des objectifs de développement durable. L'armée israélienne a intercepté dans la nuit le navire humanitaire qui voguait vers Gaza. Parmi les 12 passagers, il y avec Greta Thunberg et l'eurodéputée LFI Rima Hassan. Une arrestation qualifiée d'illégale par l'ONG qui avait organisé leur voyage. Les militants vont être renvoyés vers leur pays d'origine. Les tensions continuent à Los Angeles, secouées par les violences depuis 3 jours. Malgré les annonces de Donald Trump, le président américain qui envoie la garde nationale sur place, les autorités californiennes dénoncent une stratégie qui jette de l'huile sur le feu. Et puis en football, le Portugal champion d'Europe, le pays a battu l'Espagne hier soir en finale de la Ligue des Nations.
Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus à Nice aujourd'hui dans le sud de la France pour la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan.
L'UNOC 3, 5 jours de négociations diplomatiques pour améliorer la protection des mers. La conférence est co-organisée par la France et le Costa Rica. Parmi les dirigeants présents, on compte le Brésilien Lula. En revanche, les États-Unis n'envoient aucun représentant. Ils ont pourtant le premier domaine maritime du monde. Et puis on retrouve tout de suite sur place notre envoyé spécial Pauline Inglaise. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Quels sont les enjeux de ce sommet ?
Eh bien, la liste est longue. Pêche illégale, surpêche, pollution plastique, exploitation minière des fonds marins. Mais aucun ne devrait faire l'objet d'un accord formel de l'ensemble des pays. Emmanuel Macron y voit plutôt un moment de mobilisation. Le projet de déclaration politique, déjà négocié, reconnaît d'ailleurs que l'action ne progresse pas à la vitesse ou à l'échelle requise. Si ce texte est jugé peu ambitieux par certains observateurs, la conférence doit surtout déboucher sur un plan d'action de Nice pour l'océan. Il comprendra également les engagements par pays. L'un des enjeux majeurs, ce sera le nombre de ratifications du traité de la haute mer pour une protection des écosystèmes dans les eaux internationales. Les 60 nécessaires à son entrée en vigueur ne devraient pas être formellement déposés à Nice, mais des engagements fermes seront pris, ce qui fait penser à l'organisateur français que le seuil devrait être atteint d'ici septembre. Cette UNOC 3 est également l'occasion d'avancer sur les négociations pour un traité contre la pollution plastique qui reprendront en août à Genève. Enfin, le Costa Rica, co-organisateur, espère 100 milliards de dollars de nouveaux financements. L'océan est le moins bien financé des objectifs de développement durable de l'ONU.
Pauline Glaise en direct de Nice pour RFI. On l'entend, l'océan représente de grands enjeux et RFI a justement prévu un dispositif spécial pour vous les présenter. Bonjour Simon Rosé.
Bonjour.
Vous êtes chef du service environnement climat de Radio France Internationale et vous êtes à Nice dans notre studio monté pour l'occasion. Qu'est-ce qui est prévu ?
Eh bien écoutez, on va essayer de vous faire vivre au mieux cette conférence toute cette semaine. On a donc pris le parti d'océaniser en quelque sorte la grille de programme d'RFI dans les journaux bien sûr, mais également les magazines. Caroline Lachowski et l'équipe d'Autour de la question sont là, tout comme Anne-Cécile Bras pour C'est pas du vent. Mais dans 20 minutes, c'est Florent Guignard qui ouvre le bal avec sa question d'environnement. Et ensuite, à 6h, temps universel, édition spéciale, Anne Cantner et ses invités durant une heure pour revenir sur le rôle que joue l'océan dans nos vies, comment il façonne nos sociétés et comment nous, nos activités l'affectent en retour. Vous pourrez à cette occasion et toute la semaine entendre des témoignages, les reportages de nos correspondants et envoyés spéciaux tout autour du monde, sur les plages des îles du Pacifique, Tuvalu, dont les habitants vont être contraints à l'exil en raison de la montée des eaux. La pêche en Afrique de l'Ouest, c'est le grand reportage du jour. Le rôle des aires marines protégées en France et dans l'océan Indien. L'océan, c'est également des activités économiques, le transport maritime, le tourisme, c'est également un patrimoine culturel, des gestes, des métiers, des champs. 70%, c'est un chiffre que vous allez souvent entendre dans les jours qui viennent. La mer couvre 70% de la surface de la Terre. Certains la voient comme une route qui nous relie, d'autres comme un mur à qui on tourne le dos. C'est à la fois une chance et une menace parfois. La question, elle est centrale. On l'a donc mise au centre de nos programmes pour cette semaine.
Merci beaucoup Simon Rosé. Et puis nos reportages, nos analyses, nos décryptages sur ce sommet et ses enjeux, vous pouvez aussi les retrouver sur notre site www.rfi.fr.
Les autorités israéliennes ont intercepté le navire humanitaire de la Freedom Flotilla.
Le Madeleine qui voguait en direction de Gaza, l'enclave palestinienne toujours sous blocus. Il y avait à son bord 12 militants pro-palestiniens, dont Greta Thunberg et l'eurodéputée française Rima Hassan. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Diane, bonjour à tous.
Selon l'organisation qui a affrété le bateau humanitaire, c'est une violation manifeste des lois internationales. Mais selon le ministère des Affaires étrangères israélien, l'opération s'est déroulée sans violence.
Oui, les choses se sont passées en tout cas très vite après des annonces de la marine israélienne. Par radio et par mégaphone, le Madeleine a été arraisonné par l'armée israélienne. Les forces spéciales ont pris contrôle du navire.
La zone maritime de la côte de Gaza est fermée au trafic naval dans le cadre d'un blocus maritime légal. Si vous êtes désireux de livrer de l'aide humanitaire à la bande de Gaza, vous pouvez le faire via le port d'Ashdod en utilisant les canaux établis et les centres de distribution.
Le ministère des Affaires étrangères israélien a montré sur son compte X des images de l'équipage assis avec les mains en l'air au moment de l'abordage, notamment l'écologiste Greta Thunberg et l'eurodéputée Rima Hassan. On peut voir également des militaires qui distribuent des sandwichs et des bouteilles d'eau. Alors à ce stade, le voilier fait toujours route vers le port d'Ashdod. Les passagers devraient rentrer dans leur pays d'origine, affirme encore un communiqué qui indique de manière cynique que la petite quantité d'aide qui se trouvait sur le yacht et qui n'a pas été consommée par les célébrités sera transférée à Gaza par le biais de véritables canaux humanitaires. Le ministère israélien de la Défense, le ministre israélien de la Défense plutôt, Israël Katz, a ordonné à ses services de projeter aux militants pro-palestiniens le film du massacre du 7 octobre 2023. Il est important que Greta et ses amis voient de quoi le Hamas est capable, a souligné le ministre. Quant au ministère des Affaires étrangères israélien, il conclut pour sa part son communiqué par ces mots « Le show est maintenant terminé ».
Michel Paul en direct de Jérusalem pour RFI et parmi les réactions à l'interception du navire, celle en France du chef de file de la France Insoumise, le mouvement auquel appartient Rima Hassan. Jean-Luc Mélenchon dénonce des arrestations illégales et son mouvement appelle donc à des mobilisations partout dans le pays ce lundi.
RFI 22h07 à Los Angeles en Californie où la situation est toujours tendue.
Troisième jour de manifestation contre les arrestations d'immigrés menées par les services fédéraux des États-Unis. Des manifestants ont bloqué d'ailleurs pendant plus d'une heure une autoroute de la mégapole ce dimanche après-midi. Donald Trump a lui annoncé hier l'envoi de 2000 soldats de la garde nationale dans la grande ville de la côte ouest. Le président américain promet le retour de l'ordre, mais les dirigeants démocrates locaux dénoncent un abus de pouvoir. Le gouverneur de la Californie n'avait pas demandé ce déploiement de militaires et de nombreuses voix au niveau local redoutent une escalade des violences. Écoutez Karen Bass, la maire de Los Angeles.
Ce que nous voyons à Los Angeles, c'est le chaos provoqué par l'administration. Les gens doivent exercer leur droit de manifester. C'est le droit que leur confère le Premier Amendement. Mais les gens doivent aussi exercer ce droit pacifiquement. Nous ne voulons pas faire le jeu de l'administration. Quand vous faites des descentes sur des lieux de travail, quand vous séparez parents et enfants, et quand vous faites circuler des caravanes blindées dans nos rues, vous provoquez la peur et la panique. Le déploiement de troupes fédérales est une escalade dangereuse. Mais il faut être réaliste, il s'agit d'un autre agenda, il ne s'agit pas de la sécurité publique. Il est clair qu'il n'y a pas de plan, qu'il n'y a pas de politique.
Karen Bass, la maire de Los Angeles.
Un nouveau mouvement politique au Mali pour réclamer le retour de l'ordre constitutionnel.
Le Front Patriotique de Résistance, le FPR, a été fondé le week-end dernier par Aliou Diallo, un homme politique malien. Actuellement en exil, il condamne la dissolution des partis politiques par la junte et appelle à la mobilisation. Les détails avec notre correspondant régional, Serge Daniel.
L'initiateur de la création du Fonds Patriotique de Résistance, FPR, est un homme à double casquette. Aliou Boubacar Diallo est un homme d'affaires prospère, mais aussi un homme politique malien. Lors des dernières élections présidentielles, il est arrivé en troisième position sur une vingtaine de candidats. Aujourd'hui, il vit en exil et appelle ses compatriotes à le rejoindre pour mettre fin à la transition, je cite, « illégale » dirigée par les militaires. Aliou Boubacar Diallo.
Le Front Patriotique de Résistance s'adresse à des millions de Maliens, de l'intérieur comme de la diaspora, pour qu'ensemble nous nous organisons pour que cette violation de notre constitution et cette prise de pouvoir par des voies anticonstitutionnelles cessent.
La situation est grave, poursuit-il, et de rendre public son schéma de sortie de crise dénommé V3R, vérité, reconnaissance, réparation et réconciliation. Aliou Boubacar Diallo ne prône pas la violence comme mode d'action, mais il demande aux militaires maliens, avec insistance, de retourner dans les casernes et d'organiser rapidement les élections libres et démocratiques.
en France. C'était il y a un an, jour pour jour, Emmanuel Macron annonçait la dissolution de l'Assemblée nationale.
Le président français avait alors créé la stupeur et la surprise jusque dans son propre camp politique. Officiellement, c'était pour clarifier la situation juste après les élections européennes où le Rassemblement national était arrivé en tête. Mais aucun groupe parlementaire n'a eu la majorité absolue après les législatives qui ont suivi. Et un an plus tard, les députés sont encore marqués par cette décision qu'ils n'ont pas comprise. Emma Vouglimaxi.
Un an après, quels sont les apports de la dissolution? J'en vois pas.
Céline Calvez, comme la plupart des macronistes, ne s'en est toujours pas remise.
En 2017, on avait de nombreux projets de loi, on avait aussi une majorité absolue. C'est un temps pour lequel j'ai encore de la nostalgie.
Pour les députés, la dissolution, c'est un échec. L'Assemblée est ingouvernable, selon le socialiste Jérôme Guedj.
Un an après, à l'Assemblée nationale, c'est paralysie politique, c'est crispation et brutalisation encore plus grande du débat politique. Bref, c'était une décision folle.
Charles de Courson, député Liot, va même encore plus loin.
En fait, il a voulu organiser le chaos. Il a assez bien réussi d'ailleurs, pensant qu'il allait reprendre la main. Les Français en ayant marre, allez revenir. Il s'est complètement trompé.
Le Rassemblement national, lui, a en travers de la gorge l'après-dissolution. Pour Jean-Philippe Tanguy, le Front républicain leur a volé la victoire aux législatives.
Les forces du système n'ont empêché Jordan Bardella d'être Premier ministre et de résoudre les vraies difficultés des Français.
Le RN espère une nouvelle dissolution. Ce sont les seuls, avec les insoumis comme Éric Coquerel.
La situation aujourd'hui dans laquelle nous sommes à cause de M. Macron ne peut être résolue que par le peuple. Donc je n'ai jamais peur du retour au peuple.
Il devra encore attendre. Le président pourra officiellement dissoudre l'Assemblée nationale dans un mois, à partir du 8 juillet.
Emma Vouglimaxi, la finale de tous les superlatifs en tennis chez les hommes. Carlos Alcaraz a remporté le tournoi de Roland-Garros hier dimanche à Paris, vainqueur face au numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner. Le match très disputé a duré 5h29, c'est un record pour une finale de cette compétition.
Un Espagnol vainqueur donc à Roland-Garros. En revanche, en football, c'est le Portugal qui a gagné la Ligue des Nations.
Oui, le tournoi européen s'est fini hier au tir au but à la Munich Football Arena. Tir au but remporté donc 5-3 par le Portugal face à l'Espagne. Ronaldo et ses partenaires entrent donc dans l'histoire de la compétition. Antoine Grenier.
Les mains sur le trophée, la tête dans les étoiles. Cristiano Ronaldo, capitaine d'une sélection double lauréate de la Ligue des Nations. À 40 ans, le Portugais savoure, même s'il est sorti avant la fin, même s'il n'a pas pris part au tir au but, même si, pour battre l'Espagne, la sélection a dû aller jusqu'au bout d'elle-même.
Le plus important, c'est que le Portugal a bien joué contre l'Espagne. Ce qui importe, c'est le résultat. On a couru après le score. Et ensuite, avec les tirs au but, il faut avoir un peu de chance. Mais on sait que c'est une victoire qui va nous donner confiance pour les compétitions qui viendront dans le futur.
Une victoire signée Ronaldo grâce à son but du 2 partout en seconde période. Signé surtout Nuno Mendes, le latéral parisien, auteur d'un exploit personnel pour ramener les deux équipes à un partout et qui a marqué son tir au but. De quoi lui offrir un autre trophée, celui d'homme du match.
Ça récompense ma régularité. J'ai fait de très bons matchs ces derniers temps. Tout le travail que j'ai produit cette saison et avec le Paris Saint-Germain, ça a un effet. Je fais plus attention à ma préparation. C'est la clé pour me sentir bien.
Ronaldo et Mendes, deux générations ensemble pour mener le Portugal à son troisième titre majeur. Antoine Grenier, Munich, RFI.
La police allemande signale par ailleurs la mort d'un spectateur tombé depuis un gradin peu après 23h hier soir. Une enquête est ouverte sur les circonstances exactes de sa chute.
Merci Diane. Diane Berger pour le journal sur RFI. L'actualité sportive de cette matinée, ce sera tout à l'heure avec Saliou Diouf dans une demi-heure pour ce premier journal des sports et tout à l'heure aussi à 9h42. Pour l'instant, il est 7h14 à Paris. Dans une heure, on va retrouver Anne Cantner et ses invités à Nice en direct de la conférence des Nations Unies sur l'océan. Ça démarre aujourd'hui, un moment de mobilisation pour Emmanuel Macron, le président français, car l'heure est grave, s'accordent à dire les spécialistes. Pollution, surpêche, exploitation minière, réchauffement climatique, les sujets ne manquent pas, mais pour faire face, il faut déjà comprendre. C'est ce que tentent de faire les scientifiques de la mission Bougainville, qui étudie en ce moment le plancton. Suite de notre série dédiée ce matin, aujourd'hui, après la collecte des échantillons, place à l'analyse.
Ça sert déjà d'une part de pouvoir les identifier morphologiquement, ça permet aussi donc de voir leur comportement, On peut voir donc les déplacements, ça permet aussi d'avoir des informations sur leur nourriture, etc.
Reportage à retrouver tout à l'heure dans le journal de 8h et un dossier complet sur notre site rfi.fr. Notre invité également ce matin, Foga Agbetosu, responsable pour le Togo de l'ONG Sustainable Ocean Alliance. Rendez-vous dans une demi-heure. Et puis dans notre grand reportage ce lundi, nous partons à l'écoute des communautés de pêcheurs en Afrique de l'Ouest qui souffrent de la baisse du niveau de ressources qu'offre l'océan. Extrait à suivre juste avant 8h. Et puis également au programme de votre matinée sur RFI, l'entrée en vigueur ce lundi matin du travel ban voulu par Donald Trump. Les ressortissants de 12 pays, dont 7 africains, interdits d'entrer aux États-Unis. On en parle ce matin. Et Juan Gomez attend vos réactions dans Appel sur l'actualité tout à l'heure à 10h10. Ce matin également, alors qu'on apprend que l'armée israélienne a arraisonné cette nuit le bateau humanitaire Madeleine qui tentait de rallier les côtes de Gaza. Nous serons en Israël et en Cisjordanie occupée à la rencontre de journalistes israéliens et palestiniens qui tentent d'informer au mieux sur la guerre en cours dans la bande de Gaza, territoire totalement fermé à la presse étrangère et où les journalistes gazaouis meurent dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont plus de 200 dans ce cas. Reportage international d'RFI à écouter tout à l'heure, juste après le journal de 9h, RFI Matin à vos côtés jusqu'à 10h. Et comme chaque jour au programme aussi, l'info, le sport, la presse, la musique, vous avez le programme, on peut commencer. Et toute la semaine, RFI océanise ses programmes, comme l'a très bien dit dans le journal Simon Rosé, chef de service climat, environnement à RFI, à l'occasion donc de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Ça se passe à Nice, dans le sud de la France, toute la semaine, et ça commence aujourd'hui, le sud de la France, justement, où l'on se dirige tout de suite. On prend la direction de Marseille, Marseille bordée par la mer Méditerranée. La mairie de la 2e ville de France a entrepris sur place des travaux pour tenter de réimplanter de la posidonie, une plante qui, si vous ne la connaissez pas, ressemble un peu à du gazon, mais sous l'eau, espèce protégée depuis 1988, surnommée poumon de la mer, et pour cause, la posidonie est un véritable puits de carbone, une nurserie pour poissons, et elle permet aussi de protéger nos plages de l'érosion. Pourtant, pendant de nombreuses années, il était d'usage de retirer les banquettes de posidonie morte des plages. Siam Spencer nous emmène.
À Marseille, sur plusieurs plages du centre-ville, des amas de feuilles brunes s'accumulent entre les vagues et le sable.
Alors ici, nous sommes sur la plage des Prophètes, qui est une petite plage sur la Corniche, à Marseille.
Hervé Manchon, adjoint à la biodiversité marine, à la mer et au littoral de la mairie de Marseille.
Et ce que nous voyons à nos pieds, ce sont des banquettes de posidonie, c'est-à-dire le dépôt des feuilles mortes des herbiers de posidonie qui commencent à s'accumuler sur le trait de côte et qui vient protéger le sable de l'érosion.
Il y a eu des travaux là au mois de mai, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ?
Durant l'hiver, se sont accumulées beaucoup plus de quantités d'herbes mortes de posidonie, et ça formait des banquettes énormes sur le littoral. On a dégagé le sable, et on a fait des couches de posidonie, on a remis des couches de sable, des couches de posidonie et des couches de sable, et on a fait ce qu'on appelle un millefeuille de posidonie. Cette masse vient engraisser la plage, mais la posidonie qui reste sur place va se dégrader, se décomposer lentement et continuer à nourrir son environnement, à nourrir le phytoplancton et à nourrir le plancton de ses nutriments.
Ces travaux pour créer des millefeuilles de posidonie entrepris par la mairie de Marseille ont des bénéfices multiples puisque ces banquettes, en plus de protéger les plages de l'érosion, viennent aussi, en se décomposant, nourrir le phytoplancton dans la mer où on retrouve aussi cette posidonie sous forme vivante, des véritables prairies de ces herbes qui se balancent au gré des courants et abritent tout un écosystème, comme l'explique Charles-François Boudouresque, professeur émérite à Aix-Marseille Université et spécialiste de la posidonie.
L'herbier de posidonie est un écosystème extrêmement important en Méditerranée, non seulement parce que il produit des quantités de matière organique considérables, c'est un record, hein, ça produit beaucoup plus que la forêt équatoriale. Ensuite, parce que c'est un écosystème qui héberge de très très nombreuses espèces, en particulier des espèces de poissons. 40% donc de tout ce que l'on pêche en Méditerranée, eh bien, dépend de l'herbier de posidonie.
Qu'est-ce qui menace la posidonie aujourd'hui ?
La principale menace sur la Posidonie, ce sont les chalutages et les ancrages. Et la principale menace sur l'écosystème, c'est la surpêche.
Parmi les autres menaces citées par cet expert sur l'ensemble de la Méditerranée, les aménagements littoraux et la pollution.
Reportage à Marseille de Siam Spencer, la biodiversité marine comme bien d'autres sujets au programme de cette troisième conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice. Donc cette semaine, bonjour Florent Guignard.
Ouais, bonjour.
Notre question d'environnement ce matin, en ce début de semaine très océanisée donc sur RFI. Alors pourquoi ce sommet de l'océan, Florent, est-il important ?
Eh bien parce que les océans sont importants par la taille d'abord. Ce qu'on appelle la Terre est en fait recouverte à 70% de mer et d'océan. Le seul océan Pacifique représente un tiers de la surface du globe. Il est le plus grand, le plus profond aussi, avec la fosse des Mariannes à plus de 10 000 mètres en dessous de la surface de l'eau. Oui, plus de 10 km de profondeur. Il y a dans l'océan, écoutez bien, 1 milliard 400 millions de kilomètres cubes d'eau. Bon, je suis pas sûr que ça vous parle tellement, c'est énorme. 97% de l'eau présente sur la planète, c'est de l'eau salée, donc de l'eau de mer et de l'eau de l'océan.
Et dans cette immensité, il y a de la vie.
Mais oui, c'est même là, quelque part, dans l'océan, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de continent, que la première forme de vie est apparue. Il y a 3 milliards d'années environ, 1 milliard et demi d'années après la naissance de la Terre. La génétique l'a d'ailleurs montré, tous les êtres vivants, y compris vous, Andréane, tous les êtres vivants sur Terre et sur mer aujourd'hui ont de l'ADN issu de ces premières formes de vie microscopiques. Et si vous êtes là aujourd'hui, Andréane, derrière ce beau micro rouge, eh bien c'est grâce au plancton et à la première révolution énergétique qui l'a rendu possible, la photosynthèse qui a transformé la lumière du soleil en énergie et qui a produit de l'oxygène. Tout ce qui est à la base de la vie aujourd'hui s'est produit dans les océans.
Merci au plancton. Donc ce qui nous amène à son rôle majeur, Florent.
Le plancton qu'on appelle aussi les micro-algues qui produisent donc de l'oxygène. La moitié de l'oxygène de la planète est d'ailleurs dans l'océan. Le plancton, il séquestre aussi du CO2, le principal gaz responsable du réchauffement climatique. Alors on parle beaucoup du rôle des forêts, mais le premier à faire le boulot, eh bien c'est le plancton, ces forêts marines finalement, qui absorbent près de 30% du CO2. Les océans sont des puits de carbone et des puits de chaleur aussi. Ils absorbent 90% de l'excès de chaleur provoqué par le changement climatique. En fait, ils ont un rôle de régulateur du climat qui serait beaucoup plus extrême sans les océans. Alors pour en revenir au plancton, il est aussi majeur parce qu'il est à la base de la chaîne alimentaire. Sans plancton, pas de poisson et pas de fish and chips dans votre assiette.
C'est ce que nous apportent aussi les océans, de quoi nous alimenter.
Oui, plus de 3 milliards d'humains dépendent des poissons pour se nourrir. Près d'un milliard vivent de la pêche et de l'aquaculture. Mais comme le dit le WWF, le Fonds mondial pour la nature, nos océans sont en faillite. La surpêche, on en parlera demain sur RFI, menace toute la biodiversité marine, si riche et si fascinante. Rendez-vous d'ailleurs cet après-midi pour l'émission autour de la question. Ce sera en direct de Nice et on y parlera notamment de la baleine bleue, le plus grand animal de la planète. Rendez-vous à 14h10 TU.
Et pourtant, Florent, les humains détruisent les océans.
Chaque minute, 15 tonnes de plastique atterrissent dans les océans. C'est mortifère pour les animaux marins. Et ce plastique se retrouvera in fine dans votre fish and chips. L'excès de carbone provoqué par les activités humaines rend les océans plus acides. Et ça aussi, ça menace toute la biodiversité marine. C'est l'une des limites planétaires qu'on est sur le point de franchir. Quant aux coraux qui abritent 25% de la biodiversité marine, ils sont de plus en plus menacés par le réchauffement climatique. Vous l'avez donc compris, sans les océans, ce serait la catastrophe. Et nous, humains, nous ne serions pas là, nous ne serions plus là. C'est pour ça que ce sommet des océans est important. La vie sur Terre dépend en fait de la vie dans la mer.
Merci Florent Guignard. Le sommet des océans à Nice, on y retrouvera Anne Cantner dans une demi-heure pour une édition spéciale sur RFI entre 8h10 et 9h. Et toute notre production à retrouver aussi sur notre site rfi.fr. Allez, on passe à notre rendez-vous, la Une en Asie, comme chaque matin sur RFI. On part pour la Thaïlande aujourd'hui, alors que des affrontements ont lieu depuis quelques jours entre la Thaïlande et le Cambodge. Les échanges de tirs entre les deux armées se sont soldés le 28 mai dernier par la mort d'un soldat cambodgien, ce qui a ravivé un vieux différend frontalier. Bonjour Valentin Sébron.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Bangkok en direct avec nous ce matin. Valentin, vous nous dites que des pourparlers se sont tenus hier entre les deux pays et il semble ces pourparlers avoir fait redescendre la pression.
Oui Andréane, après la surenchère, la désescalade, hier en tout cas les forces armées thaïlandaises et cambodgiennes ont accepté de revenir à leur position initiale près d'un territoire contesté que les Thaïlandais appellent Changbok. La veille, les nouvelles n'étaient pourtant guère rassurantes. Les deux pays avaient en effet renforcé leur présence militaire le long de leur frontière commune qui s'étend sur plus de 800 km. À l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité nationale, l'armée thaï s'était dite prête à mener une opération de haut niveau pour contrer toute violation de sa souveraineté. Il y a quelques jours, une source en lien direct avec des militaires thaïlandais m'a envoyé une vidéo d'un convoi de blindés en direction des zones litigieuses, car depuis la mort du soldat cambodgien fin mai, chaque camp accuse l'autre d'avoir ouvert le feu en premier.
Et cet accrochage rappelle, hein, Valentin, que la Thaïlande et le Cambodge se disputent depuis plus d'un siècle la souveraineté à divers endroits non délimités le long de leurs frontières.
Tout à fait, l'origine de la controverse remonte au traité conclu en 1907 entre la France et le royaume du Siam, ancien nom de la Thaïlande. Ce traité plaçait Priyavir, un temple vieux de 900 ans au Cambodge, sous protectorat français à l'époque. Plusieurs affrontements meurtriers ont eu lieu dans la région entre 2008, année où le Cambodge a inscrit le temple au patrimoine mondial de l'UNESCO, et 2011, avec pour conséquence eh bien, des dizaines de morts, dont des civils et des milliers de déplacés. En 2013, la Cour internationale de justice a finalement réaffirmé une décision de 1962 qui avait statué en faveur du Cambodge. D'ailleurs, après les échanges de tirs fin mai, les autorités cambodgiennes ont fait savoir qu'elles souhaitaient porter devant le tribunal de La Haye les différends concernant quatre portions de la frontière.
Et ces contentieux territoriaux attisent évidemment un fort sentiment nationaliste de part et d'autre.
Exactement. En février, des Cambodgiens ont entonné l'hymne national aux abords du temple contesté de Tamuen Thom, ce qui a forcément hérissé du côté de la Thaïlande. Il y a quelques jours, des militants royalistes thaïlandais ont manifesté devant l'ambassade du Cambodge à Bangkok. Puis la presse locale thaïlandaise a même mentionné des commerçants interdisant aux Cambodgiens d'entrer dans leurs boutiques. Mais pour contrebalancer ce patriotisme exacerbé, Andréane, des affiches anti-guerre soutenant la fraternité entre les deux royaumes ont aussi émergé sur les réseaux sociaux. Les deux parties doivent se réunir à nouveau le 14 juin eh bien pour tenter de trouver une solution pacifique au conflit.
Merci Valentin Sébron, en ligne avec nous de Bangkok pour la Une en Asie. RFI tout de suite, un petit extrait de notre playlist du mois à retrouver sur toutes les plateformes. Le titre Bay Pamar par Touré Kunda.
La kika minyo ki Bay Pamar Perto de Congo de pescador, vai pamar, que vai pamar, perto de Congo de pescador.
Latino bico terado, na sossego de Quitabanca, 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 perto de Congo de pescador.
Itadabu neno guiago, iago limpo, obrigado, vida que dado, vida não tem que força de trabalhar. Que caminho que vai pra mar, perto de Congo de pescador. Vai pra mar, perto de Congo de pescador. Vai pra mar. Vai pra mar, perto de Congo de pescador. Vai pra mar,
perto de Congo de pescador. Ilha que não padido. Que yago limpo que no bebe, da que no bico terado. Na sossego de Quitabanca, la que dá no neno cuiago. Na sossego de Quitabanca, la que dá no neno yago limpo de vida que dá no, vida. Yago limpo de vida que dá no vida, obrigado.
La que no bico terado, na sossego. Quitabanca, 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 perto de Congo de pescador.
Bay Pamar par Touré Kunda, c'est sur notre playlist RFI ce mois-ci à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Vous restez bien avec nous dans moins d'une minute le journal.
Bay Pamar, perto de Congo de pescador. Bay Pamar.
Priorité santé.
Raphaël Constant vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
Comprendre les varices et l'insuffisance veineuse.
Demain,
les maladies de la prostate, toutes vos questions à un spécialiste.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU.